à tous et bienvenue dans Cop Nord, la seule émission qui fait parler en même temps les supporters du LOSC et du RC Lens. Au sommaire ce soir, la défaite cruelle évidemment de Lille face à Paris dans les tout derniers instants. Hier, 4-3, un match complètement fou où Messi et Mbappé ont fait la différence et finalement une énorme frustration pour les Lillois qui perdent une place au classement. Lens met fin à sa mauvaise série de 4 matchs sans victoire en s'imposant contre Nantes à Bollard. La machine lensoise est-elle à nouveau relancée? Les sangs et or qui ont à nouveau montré des choses intéressantes. On en parle bien sûr avec nos invités ce soir autour de la table, Raphaël et Adrien, côté Lillois. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. Et côté Lensois, Antoine et Victoire et Victor, pardon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Très bien. Très bien. Merci.
Vincent Vieillard est en vacances, vous l'avez remarqué évidemment. Rassurez-vous, il sera de retour lundi prochain. N'hésitez pas à participer depuis la maison à l'émission grâce à Twitter et le hashtag CopNord. On attend vos messages, émission également en podcast. Et on commence avec Lille qui est passé à ça d'une énorme performance au Parc des Princes. Le résumé avec Lucas Labert.
Une défaite, mais surtout de nombreux regrets pour le LOSC. Opposé au Paris Saint-Germain, les Lillois se sont inclinés dans les dernières minutes de la partie. Un premier exploit d'Mbappé trompe Lucas Chevalier, puis c'est au tour de Neymar de faire le break à peine 5 minutes plus tard. Mais la réaction lilloise ne se fait pas attendre. À la réception d'un bon centre, le défenseur Diakité inscrit son premier but de la saison et permet à son équipe d'y croire à nouveau. En seconde période, un pénalty généreux inscrit par Jonathan David et une frappe sèche de Jonathan Bamba à 20 minutes du terme permettent aux Lillois de prendre les devants. Mais l'inarrêtable Mbappé s'offre un doublé à quelques minutes de la fin avant que le coup franc de Messi ne délivre le Parc des Princes. Fin de série pour le LOSC.
7 buts au Parc des Princes, donc hier après-midi. Vos tops, vos flops, messieurs, Raphaël et Adrien pour commencer peut-être.
Ouais, moi mon top ce sera Fonseca pour le plan de jeu qu'il essaye de mettre en place depuis le début de saison. Et je trouve que hier on a vu vraiment une différence entre le match aller et ce match retour là. Entre une équipe à l'aller, c'était un peu virevoltant, un peu à droite, à gauche, aller un peu n'importe où. Et là on a vu quand même une équipe qui vraiment construisait bien, qui était bien en place,
ouais.
Vers l'avant. Et ça sera mon top là-dessus sur ce match-là. En flop, ça sera quand même la défense. Alors, c'est toute la défense pour le coup. Parce que quand on mène quand même 3-2 à la 86e minute, on a encaissé ces deux buts-là. C'est quand même dommage.
C'est une erreur pour vous
Au moins, ne pas avoir fait le nul. Voilà, on fait une faute sur Messi sur le quatrième but.
Donc, il y avait des crampes en fin de match pour beaucoup de joueurs. Raphaël
Moi, le top, ce sera tout simplement Lignoro. Il faut se rappeler qu'il y a 6 mois, il faisait sa première titularisation contre Toulouse. Et aujourd'hui, il remplace Fonte au bout de 20 minutes de jeu contre le PSG. Il fait un match plutôt costaud, même s'il y a quelques erreurs à noter. Mais il faut rappeler qu'il a 17 ans. Donc, un grand bravo à lui qui continue à montrer qu'il a du talent. Et tant mieux qu'il fasse chez nous, c'est parfait. Et vu qu'on enchaîne sur les flops, moi ce sera Benjamin André qui symbolise un peu ce problème défensif. On sait que pourtant c'est censé être le rock lillois et il a jamais été presque dans les bons coups. Sur l'ensemble du match, les 4 buts, c'est presque, si vous les regardez, à chaque fois
il y a une erreur.
Au moins sur la faute sur Messi qui donne le coup franc.
Il y a une erreur de placement, il y a une erreur de jugement. Il a rarement été dans le bon coup. Et faut le noter, puisque d'habitude il est très régulier et très bon, donc là ça se voit encore plus.
Mais Lille, oui.
C'est un peu le souci de Benjamin André, c'est quand il défend un peu trop bas, je le trouve qu'il fait beaucoup de fautes quand il défend dans les 20-25 mètres de notre camp, alors qu'il peut être très bon dans les 25-30 mètres plutôt, où là il peut être très bon, très dur dans l'homme, mais dès qu'on se rapproche de notre but, c'est vrai qu'il a un peu de difficulté, ouais, effectivement.
Les Lensois, évidemment, vous avez regardé ce match avec attention.
Avec plaisir,
hier,
même.
Spectacle de Ligue 1.
Très beau spectacle, il faut le dire. Alors, moi, mon top, pour le coup, ce sera André Gomes. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas mentionné. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé sa présence au milieu de terrain, là où Benjamin André, qui est mon flop, pour le coup, était un peu éteint. Et les seules fois où on l'a vu, c'était pour des erreurs. Je trouve que, ouais, André Gomes, ça donnait des beaux ballons. C'était très, très agréable à voir. Ça distillait bien le jeu. Et je pense que le plan de Fonseca, c'était aussi ça, de savoir créer vraiment un collectif en mettant un homme au centre pour savoir distiller un petit peu les ballons, savoir bien écarter des trucs que Lille, je trouve faisait un peu moins sur les dernières semaines. Donc ouais, les deux André en fait, flop et top.
Antoine.
Moi c'est vrai que André Gomes en top
aussi.
Ah oui, carrément. Puis quand on voit ça passe sur Bamba là, elle est incroyable, elle est magnifique, ça c'est
elle sauve le match de Bamba.
Ah oui. Ouais, mais du coup, Gomez.
Les Lillois dominateurs, hein, si on regarde un petit peu les statistiques de cette confrontation donc au Parc des Princes, dans la possession du ballon, en tout cas, c'est assez équilibré, mais Lille qui a quand même dominé Paris hier sur quasiment l'intégralité du match.
Ouais, comme beaucoup de nos matchs depuis le début de saison, on domine, on a beaucoup de mal aussi pour concrétiser nos occasions, à l'image de nos deux ou trois premières occasions dans les 10-15 premières minutes, où on a un face-à-face entre David et Donnarumma. Et encore une fois, on n'arrive pas à marquer ce premier but. Et au final, bah, on en encaisse deux derrière. Donc c'est un peu notre défaut depuis le début de la saison. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en pratique, il y a un très beau jeu. C'est très agréable à voir.
Comment vous l'avez vécu, vous, Raphaël, ce match à rebondissement est assez fou, dingue. On a vu tous les qualificatifs dans la presse.
Un match avec beaucoup d'émotions, mais si je dois retenir quelque chose avec du recul, c'est de voir l'évolution tant du jeu que du groupe. Il y a quelques mois, on perdait 7-1 à domicile contre cette équipe après un but encaissé très rapidement. Là, on perd 2-0 au bout de 20 minutes de jeu et pourtant, on baisse pas les bras.
Ouais.
On répond.
C'est ce qui revient depuis quelques matchs, hein, quand même.
On l'a vu avec Rennes aussi. On a une vraie force de caractère malgré une équipe assez jeune. Tant dans son expérience collective que par ses individualités. Et pour le coup, elle montre vraiment une vraie force de caractère et ça fait plaisir à voir. Et tant qu'il démonte son terrain, c'est parfait pour nous.
Faut pas se laisser abattre. Justement, Paulo Fonseca, qui ne voulait pas se laisser abattre en conférence de presse d'après match, il est plutôt fier finalement de ses joueurs. Écoutez.
Je pense que nous avons mérité un autre résultat, mais c'est comme ça, c'est le football. Et faire 3 buts ici, c'est pas facile. Mais je pense que nous avons fait tout pour gagner le match. Et honnêtement, je suis très heureuse de mes joueurs.
Est-ce que Lille a mieux joué que Paris, Antoine ?
Ils ont mieux joué que Paris, mérité de gagner, mais effectivement, tu dis que c'est vrai que Fonseca, c'est bien le fait qu'il laisse beaucoup jouer, créativité, c'est bien, mais est-ce que c'est pas aussi son rôle en fin de match de peut-être cadenasser quand il gagne 3-2?
Si, c'est son rôle. Maintenant, je pense que le groupe, en tout cas, on le voit au fur et à mesure des matchs, et tu le disais, on voit vraiment un groupe qui commence vraiment à comprendre un peu aussi les erreurs. Je sais pas si pour cette année ça va le faire, en tout cas, si on continue comme ça. Pour la saison prochaine ou les saisons prochaines, en tout cas je pense que ça devrait être de faire de belles choses si on arrive à améliorer aussi un petit peu l'effectif.
Bah moi, tu vois, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que j'ai regardé le match encore aujourd'hui et en fait même après quand on mène 3-2, quand ils reviennent à 3-3, finalement on domine toujours les débats, on a toujours le pied sur le ballon. Il y a juste dans les arrêts de jeu où on faiblit un petit peu, et moi je trouve que notre défaut principalement, c'est plutôt le manque de recrues hivernales, où on se rend compte qu'on a un Timothy Weah qui est complètement fautif sur le dernier but. Sur le but d'Mbappé, pardon, où il se fait avoir par Bernat. Et on sait qu'il se fait passer, comme il passe de gauche à droite en plein match.
C'est pas son poste de prédilection, c'est ça, Victor ?
Exactement. Non, clairement pas. Il a joué arrière-gauche pendant une grosse partie de la rencontre, ouais. Alors que bon, ça reste un ailier droit. Il joue même en pointe avec les États-Unis. Donc,
exactement.
À partir de là, c'est sûr que c'est pas simple pour lui. Même si je trouve. Il tient bien l'intérim.
Il rend de belles copies, mais sur ce match en fin de partie comme ça,
entre Paris,
ça joue des tours.
Il s'est tapé Mbappé.
Ouais, et puis il a pris Mbappé
quand
même.
En face, on a quand même des joueurs de classe. De classe mondiale, Mbappé, Messi pour ne citer que. Est-ce qu'on a assisté à un match finalement similaire à un match de Ligue des Champions? Enfin, c'est vraiment ce qui ressort de cet après-midi au Parc des Princes, non?
Côté Lillois, oui, j'ai envie de dire. Côté Parisien, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, côté Lillois, on a mis de l'intensité. Mais comme on en met à tous les matchs, en fait, on avait vraiment l'habitude de voir cette équipe-là. On avait peur de voir ce que ça allait donner face au Paris Saint-Germain. Et en fait, tous les joueurs ont répondu présent. Malheureusement, à la fin, il n'y a pas le résultat. Mais en tout cas, dans l'envie, dans l'intensité, il y avait tout hier.
Autre réaction, celle de Luquet Chevalier, le gardien qui a vanté les qualités de son équipe en zone mixte.
On bouscule pratiquement la totalité des équipes de Ligue 1. Donc on est sûrement une des équipes qui joue le plus beau football. Après, on n'est peut-être pas l'équipe la plus chirurgicale et qui garde, on peut avoir des petits trous de concentration ou être un peu plus tueur. Voilà, on doit s'appuyer sur ce genre de choses. Après, forcément, c'est sûr qu'on laisse 3 points et que ça aurait été bien pour la course au top 5 voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix d'accepter et avancer.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos à Lucas Chevalier qui dit bah, on est l'une des équipes, peut-être la meilleure équipe, celle qui joue le mieux au ballon en ce moment?
Bah, on peut dire que oui, mais moi je préfère quand c'est les autres qui le disent et pas nos propres joueurs. Parce que j'ai l'impression que... Enfin, j'espère que ça ne donnera pas un sentiment de travail abouti et après on s'arrête là, quoi. Donc je préfère qu'on l'entende de la bouche de nos adversaires, qu'ils puissent essayer de nous contrecarrer. Mais tant que nous, on reste concentrés et on travaille, c'est parfait.
En tout cas, ça montre qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble et ça, c'est que bénéfique pour la suite.
Ça se ressent, ça, cette communion, justement, sur le terrain ?
Une des équipes qui joue bien ensemble, oui. Une des meilleures en ce moment, oui. Mais pas forcément la meilleure. Quand tu vois Monaco, Nice, Reims, Marseille, ce qu'ils produisent, il y a beaucoup d'équipes qui jouent très très bien en ce moment. Dire la meilleure en ce moment, peut-être pas.
Avec Jonathan David, quand même, qui est le meilleur buteur en Ligue 1 à égalité avec Kylian Mbappé, qui a passé la barre des 15 buts. Ça reste quand même assez exceptionnel.
Oui, c'est complètement exceptionnel. Après... C'est quand même un attaquant qui vendange pas mal, qu'on se le dise. Il pourrait être facilement à 20 si il ratait pas allez, un tiers de ses occasions. Mais oui, on sent que c'est la saison qui lui fait du bien, où il reprend un peu du poil de la bête comparé à la saison précédente. Mais oui, Lille, c'est une force collective. Quand on voit Paris qui est une somme d'individualités, Lille c'est vraiment, ne se repose pas uniquement que sur Jonathan David, clairement pas.
Bon, c'est bon augure pour le derby tout ça.
Il y aura d'abord un match à Brest. Oui. On sait qu'on a perdu pas mal de points contre des équipes peut-être moins bien classées. Et il faut déjà commencer par une victoire à domicile après une défaite qui est un mauvais résultat au vu des autres résultats des équipes concurrentes.
Oui, parce que finalement, au classement, Lille qui passe à la sixième place. Donc même si on retient du positif quand même dans cette confrontation contre Paris, au classement, il y a un petit recul. Donc, ouais, même si la saison est longue.
On est derrière, effectivement, mais ça bouge tellement vite. On voit les équipes gagnent et perdent entre Rennes, nous, Lens. Donc je pense que ça va encore bouger énormément d'ici la fin de saison. Et effectivement, en tout cas, le derby, ça pourra peut-être être un tournant dans la fin de saison, en tout cas lilloise, à voir pour les Lensois.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur Brest ?
Bah, Brest, on doit gagner, quoi qu'il arrive. Ça, c'est victoire obligatoire à domicile en plus. Donc là, il n'y a pas le choix juste avant le derby pour se relancer, pour repartir vers la victoire. Ça reste, on avait fait match nul chez eux.
Ouais, le 11 janvier, c'est tout récent, hein, la phase aller finalement.
Donc ça avait été assez compliqué.
0-0.
Exactement, ouais. Donc c'est vrai que j'ai confiance en ce qu'on met à domicile, en tout cas, pour aller chercher la victoire.
Je me permets juste de rebondir sur la défaite contre Paris. Certes, quand on va jouer au Parc, on ne s'attend pas spécialement à une victoire, mais le problème, c'est que les concurrents directs...
Rennes, Lens, Monaco.
Ils ont tous gagné contre Paris. C'est là, on aurait pu se dire que bon, Paris va aussi battre Lens, puis battre Rennes, puis battre Marseille, etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment 3 points de perdu, sans être trop méchant.
Cop'Nord se poursuit dans un instant avec nos invités. À tout de suite.
Le club de Lens retrouve le sourire. Opposé à une équipe en forme, Nantes, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, les Sang et Or se sont logiquement imposés 3 buts 1. La première réalisation est signée Deiver Machado, un habitué des frappes splendides comme celle-ci. Adrien Thomasson et un but contre son camp nantais viennent conclure le show lensois. De quoi redonner le sourire aux hommes de Francaise, toujours 4e de Ligue 1.
Les Lensois qui restent quand même accrochés évidemment dans cette première partie de tableau, enfin maintenant dans le top. Top 5, vos tops, vos flops, on commence par qui, Antoine ?
Antoine, allez. Top, j'irai sur Machado, parce qu'il déverrouille vraiment le match. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de dominer, et on n'est pas tranchant, on n'est pas dangereux comme les matchs d'avant. Et le but qui vient de nulle part, et après on leur claque un deuxième, il nous permet d'ouvrir le match, je pense, clairement.
Puis au-delà de ça, parce que c'est aussi mon top pour le coup, c'est vraiment un joueur qui se donne à fond sur le terrain, qui est toujours là à faire beaucoup d'allers-retours, à écarter beaucoup le jeu, parce que bon, quand t'as une défense à 3 avec 2 pistons, il faut vraiment qu'il soit vraiment très très présent. Et donc oui, Machado, je sais pas si on enchaîne sur les flops.
Bah si, allez-y.
Du coup, on va dire que je m'acharne, hein, parce qu'à chaque fois que je viens ici, c'est toujours le même. Mais Sotoka, parce que si c'est à Machado de mettre une lucarne du pied droit, c'est parce que Sotoka, il rate quelques occasions quand même avant. Je sais que c'est pas son poste de prédilection, il a plus tendance à jouer à droite de base, là il joue en pointe.
Il était en pointe hier, hein, c'est
vrai. Oui, il était en pointe, mais quand on est en pointe, il faut savoir marquer ce genre d'occasion. Là, on fait un grand match, je veux bien. mais du coup c'est mon flop. Si on gagne que 3-1, c'est un peu en partie à cause de lui.
Sentiment partagé ou pas, Antoine?
Bah c'est dur parce que il est effectivement c'est pas son poste et il est pas comme ça, il joue pas comme ça, c'est pas un tueur devant le but, il est vraiment plus à droite à combiner avec Frankowski à ouvrir le jeu de ce côté-là. Mm-hmm. Il a jamais été tueur devant le but et c'est vrai que quand on le met en numéro 9, on peut pas s'attendre à ce qu'il se transforme en numéro 9. Je pense que c'est beaucoup lui demander.
Non, c'est sûr. Après au-delà de ça, je tiens à dire que même si c'est mon flop, ça reste une victoire 3-1 contre Nantes qui avait perdu qu'un seul match et qui était la meilleure défense d'Europe avant ce match-là.
Ouais.
Donc forcément, c'est un petit flop.
Les Lensois qui ont bénéficié, vous pensez, d'une petite baisse de régime de Nantes qui avait joué trois jours avant
Bien sûr, moi c'est mon top, là je viens du Turin. On sait que Nantes, tu t'en parlais, Nantes n'avait perdu qu'un seul match depuis la reprise, c'était contre Marseille. Un match assez spectaculaire, c'était une défense imprenable jusqu'ici. Et là, avec une équipe bis totalement remaniée, c'était forcément plus compliqué. On a vu un
Nantes. Et Lensois devait gagner. Enfin, ouais, sur le papier,
c'était en tout cas une bonne opportunité pour relancer une machine qui était un peu malade depuis quelques semaines. Et pour le coup, ils l'ont parfaitement saisi. Et
ils ont remis cette intensité un peu qu'on avait un peu perdu, je trouvais, ces derniers matchs. Et moi, donc oui, mon flop, c'est Sotoka aussi, mais je trouve que il garde toujours cette intensité. Alors oui, c'est pas un vrai finisseur. Je le trouvais effectivement meilleur sur le côté quand il est à droite, mais il garde toujours cette même intensité. Alors il va parfois du coup un peu trop bas rechercher le ballon quand il est en pointe, et c'est peut-être le défaut de quand il joue à ce poste-là. Mais sinon, après, l'ensemble de l'équipe a fait plutôt un bon match là-dessus.
Et en termes d'intensité, après, j'ai surtout l'impression que c'est un peu Nantes qui a déjoué, mais bon, c'est la fatigue du match de la Juve, l'équipe remaniée aussi, qui font que on était à domicile, on était plutôt bien sur le terrain, quoi.
Bon, si on regarde les statistiques, hein, on aime les chiffres aussi dans Cop Nord. Les Lensois supérieurs dans tous les compartiments du jeu, hein, de l'animation offensive aussi, avec 19 tirs. Globalement, c'est quand même un soulagement après cette série, mauvaise série entre guillemets, de défaites de matchs nuls pour Lens.
Oui.
Cette victoire, c'est un soulagement.
Oui, complètement. Après, je pense que c'était vraiment le match parfait pour se relancer. Si on ne gagnait pas là, je pense qu'on... Je ne veux pas parler de crise parce que j'aime pas qu'on utilise ce mot à tort et à travers. Mais ne pas gagner contre Nantes, qui avait fait un match marathon contre la Juve juste après, avec une équipe remaniée, encore une fois, à domicile.
Je vous propose d'écouter Franck Hez, justement soulagé et heureux. Écoutez.
Quand on n'a pas gagné sur les 4 derniers matchs de championnat et qu'on gagne, voilà... Même des fois, quand on n'a pas gagné un match et qu'on gagne celui d'après, on est content et un peu soulagé. Ça c'est sûr. Il y a des choses qu'on a retrouvées parce qu'on a marqué 3 buts, même si je sais qu'on aurait pu en marquer plus. Et sur la prestation de l'équipe et la prestation des joueurs, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes.
Des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi? C'est un match complet, Raphaël? C'est quoi?
Bah, ils ont retrouvé déjà leur efficacité. On a vu un Fofana aussi plutôt brillant dans ses transitions, dans ses choix, tant offensifs que défensifs. On a vu un Abdoul Samed qui est toujours aussi intelligent dans son jeu défensif. Je l'ai trouvé très fort dans la première passe pour relancer le jeu. Et pour le coup, vraiment un match collectivement réussi, abouti. Je mettrais juste peut-être un petit bémol sur Fulgini, que j'attends un peu mieux. C'est quand même une des recrues.
Ah, c'était le flop d'Antoine, justement. Pourquoi?
Ah bah, on l'a pas vu, et puis bah, il est pas costaud dans les duels. Enfin, ce que tu disais, il est pas. Franchement.
C'est une recrue attendue quand même. C'est ça, à côté de Thomasson, il.
Complètement. Après, c'est son premier match à Bollaert. Faut qu'ils prennent la température, et c'est un petit peu comme je disais avec Sotoka, c'est un petit flop parce que les autres, comme Fofana avec lui au milieu de terrain, il a quand même été très très en vue, très très offensif comme défensif, il a été un petit peu partout, donc forcément ça laisse un peu moins de lumière pour des joueurs comme Fulgini, mais je m'attendais à plus aussi.
Alors des Lensois sereins et pragmatiques, à l'image justement d'Adrien Thomasson qui s'est présenté en zone mixte à la fin du match.
Non, il n'y a pas eu de doute parce qu'on sait de quoi on est capable. Je pense que la semaine dernière à Lyon, on perd, mais sur l'ensemble du match, on a quand même eu les situations pour au moins ramener un point. Après, c'est le football. On sait que la saison est faite de hauts et de bas, de moments forts, de moments un peu plus compliqués. Mais voilà, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Ça nous a fait du bien d'avoir la semaine entière pour bien travailler nos principes de jeu. Et ce soir, je pense qu'on a retrouvé ce talent-là. Ouais.
Adrien Thomasson, recrue quand même payante, gagnante.
Payante, en tout cas, il marque, c'est déjà son deuxième but. chose qu'il n'avait même pas fait à Strasbourg. Donc il rentre dans le collectif et tout de suite avec son intensité, on sait qu'il court beaucoup déjà à Strasbourg, il courait beaucoup. Et là, il est rentré complètement dans le moule lensois. Tant mieux pour vous. Hein.
Avec un premier but dans un bollard encore une fois plein. On retrouve les automatismes pour les Lensois à la maison aussi, ça fait du bien.
Ça fait du bien et c'est vrai que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le fait que la défense soit très costaud, que ce soit Grady, Danso ou même Medina qui a été propre. Et ça nous a permis de bien se positionner après pour lancer les attaques. Et je pense que c'est ce qui nous manquait un petit peu ces derniers temps, c'est que la défense soit vraiment impériale.
Alors Lens qui rejouera en attendant en Coupe de France finalement la semaine prochaine, quelques jours avant le derby. Il faut bien suivre, mais c'est ça. Il faut s'attendre à quoi quand il y a si peu de temps finalement entre deux matchs c'est pas la même compétition en plus.
Nantes, en tout cas, aime cette compétition. Ils l'ont gagnée la saison dernière. Par contre, leur niveau physique sera peut-être encore plus amoindri, sachant qu'ils vont enchaîner 5 matchs consécutifs. Ouais. Donc, ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils n'ont peut-être pas un effectif taillé pour ça non plus, malgré des renforts plus ou moins intéressants cet hiver. Donc, ce sera un match peut-être dans une autre configuration aussi pour Lens, qui aura l'objectif du derby en tête.
Mais avant, ouais, il y aura Montpellier qu'il a emporté ouais. Face à 3-1-0 ce week-end, donc ce sera le week-end prochain.
Alors moi je veux juste rebondir sur le fait que oui, on rejoue Nantes derrière, ce sera encore une fois un match de concession, je pense, ça dépendra du résultat de Nantes contre la Juve, nous aussi de nos résultats en championnat, et aussi de la façon dont on voudra préparer le derby juste avant, donc ce sera pas du tout le même match, ce sera une rencontre à mon avis vachement plus ouverte, avec du remaniement des deux côtés, là je pense que... On fera un petit peu comme Nantes juste avant.
Alors en attendant, justement, on rejette un petit coup d'œil au classement, hein, si vous le voulez bien, après ces 24 journées de championnat. Donc Lens qui est quatrième avec 49 points, donc devant les poids lourds hein, de la Ligue 1 qui déroule bien en ce moment, Marseille et Monaco, le PSG évidemment, même si la situation est encore compliquée, et du côté de Lille, donc on le disait un petit peu plus tôt, qui perd donc une place, et puis derrière évidemment les autres adversaires. Samedi, direction justement le stade Pierre-Mauroy pour Lille, retour à la maison, ouverture de cette 25e journée de Ligue 1 contre Brest, coup d'envoi à 21h, et puis Lens qui se déplacera à Montpellier donc le lendemain samedi, et puis ce sera aussi un match à suivre, un week-end à suivre avec le Classico bien sûr dimanche au Vélodrome. On continue, merci beaucoup messieurs, avec le multisport préparé par la rédaction d'RMC Sport. Avec au programme ce soir encore du football, de la Ligue 2, mais aussi du rallye.
Une mauvaise opération de plus pour Valenciennes cette saison. Face à la lanterne rouge du championnat Rodez, les nordistes ont manqué de précision pour s'imposer dans cette rencontre. La frappe de Garbić, juste avant la pause, est trop croisée pour inquiéter la défense ruthénoise. Au retour des vestiaires, les Valenciennois poussent, mais la défense de Rodez tient à l'image de cet arrêt réflexe. La tentative de Noah Diliberto à 15 minutes de la fin est là aussi trop imprécise. Score final 0-0. Prochain rendez-vous pour le VFC samedi prochain avec la réception de Dijon. La finale de la Coupe de France des rallyes avait lieu à Béthune ce week-end et c'est le Normand Thomas Chauffret qui l'a remporté. Au volant de sa Skoda, le vainqueur de l'événement s'est imposé avec seulement 12 secondes d'avance sur le deuxième, Jérémy Ancian. Une course qui s'est faite dans des conditions dantesques, faite de routes particulièrement boueuses et détrempées. Pour finir, un mot de handball, Dunkerque est allé s'imposer à Istres, victoire 30-28. Alors que les Istréens avaient creusé l'écart en première mi-temps, Théo Avelanche de Mouge, auteur de 7 buts, et son gardien, Samy Bellassen, auteur de 12 arrêts, ont redressé la barre côté Dunkerquois. Victoire d'une courte tête, l'USDK est 8e de l'Ikimoli Star League.
Très belle soirée sur nos antennes, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cop Nord.